Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 11 avril 2025. Le quartier Saint-Roch, souvent pointé du doigt pour son insécurité, l'itinérance ou encore les récentes fermetures de magasins, vibrait hier jeudi lors de la traditionnelle cabane à sucre de l'Engrenage Saint-Roch. Notre journaliste Alice Zanetta est allée faire un tour sur le parvis de l'église.
Tous par la main, tous par la main.
Ce midi, c'est la fête sur le parvis de l'église Saint-Roch. Avec différents organismes, l'Engrenage tient sa traditionnelle cabane à sucre. Au menu, musique trad, soupe au pois ou encore tir d'érable.
Retrouvez le reportage complet dans la section actualité du ckiafm.org. La campagne pour les prochaines élections municipales de novembre se fait déjà sentir à Québec. Le candidat à la mairie et chef de Québec d'abord, Claude Villeneuve, a répondu jeudi à l'appel de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. La veille, Geneviève Guilbeault a interpellé ceux qui s'apprêtent à briguer la mairie cet automne à se ranger derrière les projets de tramway et de troisième lien. Monsieur Villeneuve appuie le tramway, mais pose quelques conditions sur le troisième lien.
Je m'engage comme maire à agir comme partenaire de la réalisation de ce projet-là s'il répond adéquatement aux besoins des citoyens.
Pour rappel, parmi les autres candidats à la mairie, le chef de Leadership Québec, Sam Hamad, est pour le troisième lien et s'oppose au tramway. Le maire de Québec, qui se représente cet automne pour Québec fort et fier, Bruno Marchand, appuie le tramway et attend de prendre connaissance du projet du troisième lien en détail avant de se positionner. Et enfin, la chef de Transition Québec, Jackie Smith, rejette un troisième lien, mais soutient le tramway. C'est la dernière journée des Rendez-vous d'Histoire de Québec qui se conclut ce soir par la conférence de l'historien Éric Thierry. Intitulée « Il y a 400 ans, les Jésuites arrivaient à Québec », celle-ci jette un éclairage sur les raisons ayant amené les Jésuites à traverser l'Atlantique et à s'établir en Nouvelle-France et traite des événements entourant leur arrivée. L'événement a lieu à 19h à la salle 307 AB du Centre des congrès de Québec. Le macaron des Rendez-vous d'Histoire de Québec est requis pour y accéder. Ce soir, de 15h30 à 17h30, que vous syntonisiez CHIZ 94.3 ou CKIA 88.3, vous entendrez la même émission, Chérie, lit au lit. Il s'agit d'une collaboration entre l'émission du retour de la radio universitaire Chérie, j'arrive, de notre émission littéraire Julie, lit au lit, ainsi que de Québec BD. Enregistrée devant public, mercredi dernier, l'émission saura plaire aux mordus de bande dessinée. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Par les soirs chauds, j'allais fréquemment jouer de la flûte dans ma barque et je voyais les perches que j'avais dû charmer tracer des cercles autour de moi et je voyais la lune suivre sa course sur le fond sable nu, ridé, jonché de débris d'épaves de la forêt. Jadis, je me rendais à cet étang par esprit d'aventure, de temps à autre, les nuits d'été bien noires avec un compagnon. Nous faisions un feu tout près de la rive, imaginant qu'il attirait les poissons, et nous pêchions à l'aide d'une poignée de verre enfilée sur une ligne. Lorsque nous en avions fini, tard dans la nuit, nous jetions les tisons rougeoyants haut dans le ciel comme des fusées d'artifice qui, en retombant dans l'étang, s'éteignaient en produisant un sifflement sonore. et nous nous retrouvions soudain dans une obscurité parfaite. Mais j'avais désormais pris mes quartiers près de la rive.
La cime des arbres, des ombres à la dérive, la nuit aspire le ciel, la lune boit lentement les reflets diamants, allégés. Calmeux, l'âme en silence chante.
Bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va parler de tourbières et de milieux humides avec notre invité, Martin Legault, du Mouvement d'action régionale en environnement. Avant ça, j'ai quelques annonces, quelques lectures, quelques événements à souligner. On aura un café philo, pas ce soir, mais vendredi de la semaine prochaine, à la librairie La Liberté. Alors, si vous voulez participer au Café Philo, vous avez seulement qu'à téléphoner à la librairie pour vous inscrire, réserver votre place. Puis, on aura un autre Café Philo le jeudi suivant à la librairie Café Le Mot de Tasse. Ensuite, dans les activités, bien évidemment, à Québec, présentement, on a le Salon du livre. Il y a plein d'auteurs intéressants à rencontrer. J'y suis allé déjà en début de semaine, mercredi, en début de salon. J'ai rencontré Mme Odile Tremblay, qui est journaliste au Devoir, qui écrit un livre sur les oiseaux Le titre, c'est « Les bestiaires à pas perdu ». C'est un livre qui parle des animaux d'une façon poétique, mais aussi il y a une réflexion, je dirais, au niveau de l'éthique animale, sujet qui me tient à cœur. Puis on va revenir, j'ai pris une entente avec Mme Tremblay, que je lirai son livre, puis on aurait une entrevue là, dans les semaines qui viennent sur son livre. J'ai vu d'autres auteurs, en tout cas, il y a pas mal de choses, j'ai beaucoup de lectures à faire ces jours-ci. J'ai aussi regardé le livre de Rodolphe Christin, « Peut-on encore voyager? Réflexion pour se rapprocher du monde ». Ça, c'est un sujet qui est complexe, le voyage. Tout le monde aime voyager, prendre l'avion, mais il y a quand même une réflexion à avoir, puis c'est bien fait, c'est tout en subtilité. Je vais revenir avec ce livre-là. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, le titre, c'est « Peut-on voyager encore? » de Rodolphe Christin. Il y a aussi dans la revue, le dernier numéro qui est encore en kiosque, de la revue Philosophie Magazine, tous des textes intéressants. Il y a un lien avec la simplicité volontaire, ce numéro-là. Qu'est-ce qu'un rapport sain à l'argent? On parle de sobriété, etc. Et je vous lis un extrait de la revue. On parle de Sénèque. Sénèque, qui est un philosophe romain, célèbre à son époque, était un des hommes les plus riches de Rome, mais pourtant, c'était un simplicitaire. On dit, faut-il être indifférent à l'argent? Oui, on doit posséder sans être possédé. C'est ce que disait Sénèque. On doit tenter d'en finir avec l'obsession pour l'argent, estime Sénèque. Le désir viscéral d'être riche et la crainte encore plus profonde de sombrer dans la pauvreté créent en nous une inquiétude perpétuelle. Ce souci est une véritable torture que nous nous imposons, regrette le philosophe romain. Pour mener une vie plus tranquille et apaiser notre âme, il recommande de cultiver l'indifférence, voire l'insensibilité à l'égard de l'argent. Moi, je mépriserai les richesses, présente ou absente, n'étant ni plus triste si elle se trouve ailleurs, ni plus fière si elles étincellent autour de moi. Prône le stoïcien dans son essai de la vie heureuse. Pour cultiver cette insensibilité, chacun doit apprendre à gérer ses dépenses avec intelligence et parcimonie, sans s'y cramponner désespérément. Tout ce que j'aurai, je ne le garderai pas comme un avare, ni le répandrai comme un prodige, conseille-t-il. Un rapport sain à l'argent implique également de ne pas s'affliger des revers de fortune, ni même des ruines totales. Le sage, écrit-il, ne chasse pas ses richesses loin de lui, mais quand elles s'en vont, il les suit tranquillement du regard. Cette indifférence est un garde-fou qui permet de posséder l'argent sans être possédé par lui. Est-ce à dire que l'on doit vivre volontairement dans la pauvreté? Que nenni! Les richesses ont l'effet joyeux qu'a le vent favorable qui pousse le navigateur, concède celui qui est par ailleurs comme connu pour avoir hérité d'une famille très fortunée qui, par la suite, s'est considérablement enrichi aux largesses de l'empereur Néron dont il a été le conseiller impérial. Alors, c'est un homme extrêmement riche, mais qui était un philosophe. Il a tout perdu, il a dû même se suicider à la demande de Néron, mais il était indifférent à la richesse. Alors, c'est dans le dernier numéro de Philosophie Magazine, c'est le numéro qui est en kiosque présentement, c'est le numéro de février 2025. Aussi, dans mes lectures, dans le devoir, j'ai un texte en lien avec notre invité, une tourbière, c'est dans le devoir de mercredi, un article d'Alexandre Shields à la page B7, une tourbière de plusieurs milliers d'années menacée par Stablex. Le projet aura des impacts sur des milieux de haute valeur écologique qui exigent un suivi de l'entreprise. Le ministère de l'Environnement du Québec a insisté sur les risques que représente l'expansion du dépotoir de Stablex pour les milieux humides de haute valeur écologique situés tout autour. L'entreprise devra d'ailleurs effectuer un suivi pendant au moins 15 ans des impacts potentiels de son projet qui prévoit l'enfouissement de déchets dangereux pendant 40 ans. mais la survie des tourbières est loin d'être assurée, selon une experte de ces écosystèmes. Le site projeté est entouré de grandes tourbières pouvant dater de 6000 ans. Ensemble, elles forment un complexe d'une superficie estimée à 622 hectares. Le complexe est un milieu d'intérêt pour la conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent, écrit le ministère dans son rapport d'analyse environnementale publié vendredi dernier, soit au moment où débutaient les travaux de destruction des milieux naturels dans le secteur du futur site d'enfouissement. Dans un avis d'expert rédigé en juin 2024, mais publié seulement le 4 avril dernier, le ministère souligne aussi que les milieux humides adjacents au site se qualifient comme présentant une haute valeur écologique. Une grande partie de ces milieux humides ont notamment été identifiés comme un territoire d'intérêt dans l'Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent. Alors, on va prendre une petite pause musicale, puis on va justement parler de tourbières avec notre invité, M. Martin Legault. C'était la pièce Célébration, c'est l'ensemble Mosaïka, leur album, c'est Bound for the Orient, vers l'Orient. Avant ça, on avait eu Richard Séguin, Walden, la pièce de son qui parle de Walden, dont je vous lis des extraits à chaque début d'émission. C'est l'album Retour à Walden. Alors, Monsieur Legault, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je vous écoute depuis le début. C'est très intéressant tout ce que vous présentez.
Bon, super, super. Alors, c'est ça. On va vous présenter là, parce que les auditeurs ne vous connaissent pas. Alors, ben là, vous faites partie du, comme je disais, là, du mouvement d'action régionale en environnement. Puis là, en particulier, pourquoi on se parle aujourd'hui, là, c'est à cause de tout le dossier qu'on entend beaucoup dans les médias, Stablex, c'est la tourbière autour de Blainville. Puis ici à Québec, ben on en a des tourbières, mais je pense que moi, je ne la connaissais pas, je ne savais pas même qu'il y avait une tourbière à Blainville. Donc, ben c'est ça. Alors, je voudrais que vous nous parliez un peu de vous, puis de votre organisation, puis peut-être aussi de la fameuse tourbière en question.
Oui, effectivement. Pour commencer, nous autres, on appelle ça le MAR. Ça va plus vite là, que le mouvement d'action régionale en environnement. on est facile à trouver sur Internet. Si vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez MAR. D'habitude, il y a la définition de la mare au canard qui est au-dessus de nous autres. Là. Puis d'habitude, on, juste en dessous, on est capable de trouver notre site web, donc pour mieux nous connaître. On est un mouvement citoyen, en fait, qui est né il y a 6 ans. De ça. On était 5 personnes au départ et on s'est rendu compte que beaucoup de gens parlaient d'environnement, beaucoup de gens faisaient de l'anxiété sur les questions environnementales, faisaient leur petit recyclage, leur petit compostage, puis après ça, écoutaient les nouvelles dramatiques qui nous arrivent jour après jour sur ce qui se passe sur cette planète-là, et ils savaient pas trop quoi faire d'autre à part se mettre une petite boule à terre puis pleurer un peu en faisant « bon, ça va pas ». On se rendait compte aussi qu'il y a beaucoup de groupes environnementaux, de petits groupes locaux qui travaillent très, très fort à essayer de protéger des milieux naturels, à travailler dans toutes sortes de directions sur les questions environnementales, mais qui sont souvent isolés, qui sont souvent à bout de souffle, qui sont souvent en train d'essayer de réinventer la roue parce que, bon, ils n'ont pas été mis en contact avec d'autres personnes qui pouvaient les aider. Et au-dessus de ça, il y a des grosses organisations que tout le monde connaît, qui ont un rôle plus provincial, national. Je pense à Équita, je pense au Réseau Demain le Québec, je pense à Greenpeace, je pense à Nature Québec, à tous ces groupes-là. Mais on aurait dit que rien s'attachait entre les petits groupes, les individus et les plus grandes organisations. Il n'y avait pas grand-chose au niveau régional. Fait que à 5 personnes, on s'est dit, on va démarrer un petit mouvement citoyen, puis on va offrir de l'aide en environnement aux gens qui veulent faire bouger les choses un peu. Et on savait pas dans quoi on s'embarquait. On s'était dit, on va faire une petite campagne d'action ou deux la première année, puis on est 5 personnes, si on finissait 10, ça serait bien, là. Et on a compris que si on offrait de l'aide, ben il y allait avoir des demandes d'aide. Nous autres, on est situés au sud-ouest de l'île de Montréal. C'est là que ça a démarré au départ. Donc, on pensait peut-être une dizaine de membres à la fin de l'année. On était plus qu'une centaine de membres à la fin de l'année. On pensait faire 2-3 campagne d'action, on en a fait une trentaine de la première année. Maintenant, on est plus de 600 membres abonnés à l'infolettre, dont des dizaines et des dizaines de membres qui sont actifs avec nous, qui s'impliquent dans toutes sortes de campagnes d'action différentes. On est maintenant en contact avec plein d'autres organisations aussi pour essayer de faire bouger les choses. Ça s'est envolé à une vitesse complètement incroyable, mais on est content que tout ça bouge comme ça. Puis maintenant, notre territoire au MAR, là où on est le plus actif, on fait une espèce de sourire autour de l'île de Montréal. On part de Blainville, justement, là, avec le dossier Stabilex, dont on va parler dans quelques minutes. Et puis, on se retrouve jusque de l'autre côté avec l'autre dossier qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, Nordvolt, là, où on était au cœur de ça aussi, à essayer d'aider les citoyens. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est pas juste au nom du MAR. Puis, comme je vous disais, si vous voulez en connaître plus sur tout ce qu'on fait au MAR, là, je vais pas prendre le temps de tout vous nommer ça, là, mais sur le site web, il y a un onglet qui s'appelle campagne d'action où vous allez voir, c'est simple, on fait de tout. C'est-à-dire qu'on va faire de la conscientisation auprès des jeunes dans les écoles, on leur apprend à faire pousser des glands de chêne, des choses comme ça. Et ça va aller jusqu'à des dossiers comme Stabilex ou Nordvolt où on appuie des citoyens puis on se regroupe avec d'autres groupes environnementaux pour essayer de faire bouger les choses. Puis aujourd'hui, si vous m'avez invité, c'est parce que le MAR, il y a 2 ans, on a été mis en contact avec des citoyens de la ville de Blainville qui disaient il va y avoir un BAP à propos de Stabilex. On n'est pas organisé, on ne sait pas comment ça fonctionne, on a besoin d'aide. Est-ce que le MAR peut nous donner un coup de main? Bien sûr, on va aller vous aider. On s'est rendu compte très rapidement que c'est un énorme dossier. On s'est dit, il va falloir aller chercher d'autres forces pour être capable d'être efficace là-dedans. On a créé une coalition de groupes environnementaux. Donc, à part le MAR, il y a Au Secours, qui est un organisme bien connu au Québec.
Mais Monsieur Legault, je pense, je vais vous excusez-moi, c'est que
allez-y.
Je pense que on a une difficulté avec la ligne. Alors, je vais vous interrompre 2 minutes. Je vais vous demander de raccrocher, puis je vais vous rappeler pour qu'on change de. Peut-être que c'est juste cette ligne-là. Je vais vous rappeler. D'accord?
Parfait. OK. Je vous attends. Thank you.
Monsieur Legault.
Oui.
Bon, écoutez, je suis désolé. Là, je pense que c'est mieux. Là. Je pense que notre connexion est meilleure. Alors, je vous laisse poursuivre là, votre explication là, de finalement d'où est partie toute votre initiative.
Oui, si je me rappelle bien, là, je suis en train de vous expliquer les autres groupes avec qui on travaille là, sur le dossier Stablex depuis maintenant 2 ans. Parce que c'est important de comprendre qu'il y a vraiment une coalition de groupes qui travaille très fort. C'est pas seulement le MAR là, qui est impliqué là-dedans. Je vous avais nommé Au Secours, qui est un groupe qui se spécialise sur toutes les questions de la protection des eaux au Québec. On travaille aussi avec les maires au front Rivière-des-Mille-Îles. Je pense que les maires au front n'ont plus besoin de les présenter. Ils sont déjà bien connus au Québec. On est aussi avec la Société pour vaincre la pollution. Entre autres, Daniel Green, qui nous aide beaucoup sur toute la question de la contamination, parce que c'est un spécialiste de cette question-là, qui est très pointu, très complexe. Et on est aussi accompagné par la coalition Alerte à l'enfouissement Rivière-du-Nord, qui est un groupe citoyen qui s'est impliqué dans différentes questions qui sont en lien, dans le fond, avec tout ce qui s'appelle gestion des déchets.
OK, OK. C'est vraiment... c'est une coalition, dans le fond. Votre organisme est déjà un mouvement d'action. Là. Il y a plusieurs groupes, mais en plus, c'est que vous avez monté une espèce de coalition là, dans ce dossier-là.
Oui, puis c'est beaucoup de notre façon de travailler aux morts en général. Ce qu'on aime, c'est relier les différentes forces. On se rend compte qu'il y a plein de forces vives partout au Québec qui veulent faire bouger les choses. Ils sont souvent isolés. Puis quand on les place ensemble, on arrive à des résultats souvent très impressionnants. On est content d'arriver à faire ça, d'attacher un peu toutes ces belles forces-là ensemble.
Bon. Puis, alors là, on va parler un peu de la tourbière de Blainville. Elle est située où, juste, cette tourbière-là?
En fait, elle est au cœur là, de la ville de Blainville. Quand Stablex s'est installé là, dans les années 80, Blainville était encore une petite ville, mais il y a eu un développement immobilier très impressionnant depuis ce temps-là. Puis on retrouve vraiment maintenant du développement immobilier tout près de ces milieux humides-là qui sont d'une grande richesse.
Bon. Puis c'est près de la ville de Blainville. C'est quasiment urbain, cette affaire-là.
Oh, oui, c'est devenu urbain. Il y a des maisons tout près de la compagnie Stablex maintenant. Là.
OK.
Il y a des commerces et tout ça. Là.
Fait que les gens à Blainville, ils connaissent bien cette tourbière-là.
Oh oui, effectivement. Et puis, c'est un endroit où les gens ont tendance aussi à aller se promener parce que c'est un coin de nature assez exceptionnel.
OK. Puis, ben là, c'est ça. autrement dit, on a beaucoup d'ignorance, je trouve, par rapport aux milieux humides, les tourbières. On commence à redécouvrir ces milieux-là. Ben, si on pense à la tourbière qui est en question, M. Gilles disait dans Le Devoir que c'est un écosystème qui a 6000 ans. Alors, c'est pas rien. Quand on perd ce genre d'écosystème-là, ben, c'est fini. Là, on ne pourra plus le retrouver. Ça a pris 6000 ans à s'installer. Ça me fait penser aux forêts primaires qui étaient ici au Québec. Quand les premiers Européens sont venus ici, c'était la forêt primaire qui couvrait notre territoire, une forêt qui datait de, justement, à peu près ça, 6-7 000 ans. Et elle est entièrement disparue. On n'a plus de... On ne pourra jamais savoir à quoi la forêt ressemblait. C'est incroyable quand même. Et à l'époque, ben les colons qui sont venus ici, ben c'était un peu de l'ignorance, là. Dans le fond, le but, c'était la survie, puis on voyait pas la valeur écologique. C'était un concept qui n'existait pas, la valeur écologique de ces environnements-là. Ou tout au moins, le côté esthétique, ces forêts-là, ça devait être magnifique. On n'en a préservé aucune. On a tout coupé. Mais là, aujourd'hui, on a les milieux humides qui partent un après l'autre. On a tendance à penser que ces milieux-là sont inintéressants. Puis je pense que de ce côté-là, ce que vous faites est important.
Oui, effectivement. Je vous écoutais tantôt parler de richesse, de simplicité. Des fois, la vraie richesse, là, c'est pas celle qui brille puis qui saute rapidement aux yeux, là. Les milieux humides, depuis toujours, l'humain a considéré que c'était des milieux de peu d'importance. On comprenait pas toute la richesse qu'il y a derrière ces milieux humides-là. D'ailleurs, au Québec, on les a ravagés. C'est dur d'avoir des chiffres précis depuis la colonisation, parce que, bon, on n'avait pas les données précises au début de la colonisation. Mais on pense que dans les basses-terres du Saint-Laurent, c'est 40 à 80 des milieux humides qui ont été détruits, terminés, ils sont plus là. On a des chiffres plus précis pour le Grand Montréal, c'est 85% des milieux humides qui n'existent plus, qui ne sont plus là. Alors que, comme vous le dites très bien, il y a des milieux comme ça qu'on ne pourra plus jamais recréer. Les milieux humides, là, ça regroupe les marais, ça regroupe les marécages, puis les tourbières. En passant, il y a les trois types de milieux humides sur le terrain qu'on voit de Stablex présentement, qui ont commencé déjà à faire les travaux pour abattre des arbres et tout ça. Pourtant, il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale en 2017 qui était censée parvenir à protéger ce qui nous reste de milieux humides et hydriques au Québec. L'objectif, c'était zéro perte nette. C'était vraiment ça l'idée. C'était il ne faut plus perdre ce qui reste de milieux humides. Ils ont beaucoup trop grande importance à plein niveau. On pourrait même en parler dans deux minutes, si vous voulez. Mais la loi n'a pas fait son travail. Il y a la commissaire au développement durable qui a déposé un rapport il y a 2 ans qui était dévastateur par rapport à comment on s'est servi de cette loi-là. Pour vous donner une idée, depuis 2017, à chaque fois que des promoteurs immobiliers ou bien industriels ont demandé est-ce qu'on peut avoir un certificat d'autorisation pour détruire un milieu humide, on serait attendu à ce que la réponse soit non. Mais dans 98% des cas, la réponse du ministère de l'Environnement, ça a été oui, vous pouvez y aller. Et donc, on continue de perdre à une vitesse folle nos milieux humides. Puis, il y a des milieux comme, mettons, la Grande Tourbière, là, mais si elle s'assèche, puis qu'elle disparaît, on n'a aucune façon de recréer ça. On ne peut pas dire on va prendre un terrain ailleurs et on va bâtir une nouvelle tourbière, on va compenser. C'est des milliers d'années d'attente pour qu'une tourbière puisse arriver à s'installer sur un territoire. Et je le disais tantôt, on n'a pas compris pendant longtemps le rôle super important de ces milieux humides-là, dont les tourbières. On se rend compte maintenant que ça a des rôles incroyables, juste en biodiversité. C'est complètement fou ce qu'on peut trouver, y compris dans la grande tourbière de Blainville présentement. Vous l'avez dit tantôt. C'est un milieu exceptionnel au niveau de la biodiversité. C'est très, très riche. C'est important pour la connectivité aussi des écosystèmes, donc pour la santé même de ces écosystèmes-là. Mais c'est aussi des éponges incroyables, ces milieux-là, qui permettent de lutter contre les inondations quand tout d'un coup, avec les changements climatiques, il nous tombe des quantités phénoménales d'eau sur la tête, puis que nos villes n'arrivent plus à supporter ça. Ces milieux-là étaient là pour absorber ça, nous aider là-dedans. C'est des filtres naturels qui vont aider à dépolluer les eaux. Et c'est aussi des capteurs de carbone absolument fantastiques. On s'est rendu compte qu'une tourbière, c'est beaucoup plus efficace qu'une forêt pour arriver à capter du carbone et donc lutter contre les changements climatiques. Fait que ça a des rôles d'une très, très grande importance. Et on commence à peine à les saisir. C'était pas de la mauvaise volonté il y a quelques décennies. Je pense qu'on voyait ça comme des milieux sales. Puis qu'il fallait rendre ça propre. Donc, en les asséchant, en les remblayant, en construisant des logements là-dessus ou des terres agricoles. Mais on se rend compte maintenant de la catastrophe qu'on est en train d'installer en faisant pas attention à ces richesses-là.
Je me demandais, on a encore des problèmes avec la ligne. Est-ce que vous avez un téléphone cellulaire?
Non, j'ai pas.
OK.
J'ai pas ça sur moi.
On n'a pas de plan B, c'est ça. Ça distorsionne à cause de votre téléphone, là. Mais ce qu'on va faire, on va prendre une pause musicale, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, là, mais on peut poursuivre l'entrevue, c'est juste que ça peut être désagréable, on s'excuse pour les auditeurs, là, parce qu'il y a une distorsion, là.
Je suis bien désolé, puis de mon côté, c'est, je vous entends très bien.
c'est à cause de, je pense, sur votre téléphone, là, il y a quelque chose, soit que votre batterie de téléphone est faible ou quelque chose du genre, là. En tout cas, on va prendre une petite pause musicale, puis on va revenir, on va parler là, un peu plus de la tourbière de Blainville.
Merci.
Thank you.
C'était la pièce Promenade de l'album. Le titre de l'album, c'est Volume 2, c'est le de Flore Laurentienne. Alors, M. Legault, êtes-vous avec nous?
Oui, je suis toujours là.
OK.
Pas trop.
Oui, bien écoutez, c'est ça. C'est les réalités de la technologie. Des fois, ça ne fonctionne pas à la perfection, mais on est quand même capable de vous entendre parce que ça peut être un petit peu agaçant, là, des fois, un peu pour l'auditeur, là, mais on vous comprend très bien.
On va croiser les doigts pour que les ondes nous aident un petit peu dans la dernière partie.
Alors, c'est ça. Entrons un peu dans le cœur du sujet. Vous avez commencé à l'aborder, là. C'est qu'est-ce qui fait que ce milieu-là, ces milieux-là sont si importants, là, pour, au point de vue écologique?
Oui, en fait, on est face à des catastrophes qui s'en viennent au niveau environnemental si on ne réagit pas. On le sait que le climat est en train de changer à grande vitesse. On sait que les espèces s'éteignent à grande vitesse et puis que l'avenir même de l'humanité dépend de tout ça. Et on a des trésors entre les mains, dont les tourbières. Puis on a l'impression qu'on comprend pas encore à quel point c'est important de les préserver. Puis on est conscient, nous autres, là, que nos industries, parce qu'on consomme, vont produire des matières dangereuses, résiduelles. Il faut bien faire quelque chose avec ça, là. On peut pas garder ça dans nos cours. Chacun en regarde de chez nous, c'est pas une bonne idée. Mais on pense que ce qui est présenté actuellement par le gouvernement du Québec, la compagnie Stablex, en disant on va poursuivre comme d'habitude au même endroit, tout près d'une immense tourbière. Et puis les chiffres sont très imposants, là. Les gens ont été très bouleversés par tous les milieux humides qui ont été détruits absolument pour rien dans le dossier Nordvolt, là. Ben, pour Stablex, il prévoit détruire le double en termes de quantité de milieux humides, autant marécage, marais que tourbière, juste à côté de la grande tourbière. Fait qu'il y a quelque chose d'illogique à continuer de travailler de cette façon-là. Puis là, ce qu'on nous présente, c'est l'urgence. C'est le fait qu'on n'a pas le choix d'avoir un bris de service. Il faut absolument, absolument couper tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on recule au moment où Stablex s'est installé au Québec au début des années 80, il y a un BAP qui avait été fait juste avant. Ça peut être très intéressant d'ailleurs pour les auditeurs d'aller lire le rapport de ce BAP-là qui est encore disponible pour se rendre compte qu'on rejoue un peu dans le même film. C'est-à-dire qu'il y a des idées vraiment excellentes qui sortaient de ce rapport-là du BAP des années 80. Beaucoup de recommandations qui auraient dû être suivies pour que le Québec se penche davantage sur comment on fait notre gestion de ces déchets dangereux-là au Québec. Et ça a bougé depuis. Et le dernier BAP qui a été fait est arrivé à la même conclusion. Il faut un BAP générique sur toute la question des déchets dangereux au Québec pour qu'on ait une meilleure idée de c'est quoi les quantités qui sont produites, c'est quoi les quantités qu'on importe, c'est quoi les quantités qu'on exporte, c'est quoi les technologies qu'on utilise pour arriver à stabiliser ça, est-ce qu'il y a mieux à faire? Et là, ce qu'on se fait dire, c'est ben non, on n'a pas eu le temps de penser à toutes ces choses-là. Donc, vite, allons le plus rapidement possible. Puis, je sais qu'il y a des gens critiquent les groupes environnementaux en faisant voir que c'est bien facile de dire ça pour vous, là. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces matières-là dangereuses? On en a des solutions, puis on en a présenté des solutions au gouvernement à ce niveau-là. Fait que je ne sais pas si vous voulez que je continue ça, dans cette,
ben oui, allez-y.
Cette présentation-là. La première solution, on le sait, tout ce qui arrive avec Trump ces temps-ci aux États-Unis, la question des tarifs et tout ça, les gens, ils s'arrachent les yeux dans les épiceries pour essayer de voir d'où c'est que ça vient, les produits qu'ils achètent. Il n'y a plus d'alcool qui viennent des États-Unis sur les tablettes de la SAQ, là. Mais on continue pendant ce temps-là d'importer des quantités extrêmement importantes de déchets dangereux qui viennent des États-Unis. C'est comme un non-sens. C'est peut-être la première chose qu'il faudrait faire, stopper l'importation de ces déchets-là. Et on a entendu à l'Assemblée nationale qu'il y a des chiffres qui disaient que le Québec produisait et exportait, en fait, 4 fois plus de matières dangereuses vers les États-Unis que l'inverse. On a trouvé ça extrêmement bizarre, on comprenait pas. On est allé aux sources, on est allé vérifier auprès de l'Agence de protection environnementale des États-Unis, puis auprès d'Environnement Canada. Puis nous, nos chiffres disent pas ça du tout. Ce qu'on nous donne, c'est que dans les 7 dernières années, en gros, pour faire des chiffres ronds, là, c'est l'inverse. Le Québec a importé pratiquement 2 fois plus de matières dangereuses résiduelles qu'elle a exporté vers les États-Unis. Et la vaste majorité de ces déchets-là s'en vont vers Salex après ça. Et en plus, on a ajouté dans les dernières années le fait que maintenant, Stabilex accepte des terres contaminées, au mercure, entre autres. C'était pas dans le projet de départ. Au départ, c'était uniquement les matières dangereuses. Là, on rajoute des sols contaminés, ce qui fait que, les cellules se remplissent plus vite que ce que ça devrait. Et si on arrive à arrêter seulement l'importation de ces déchets-là pour quelques années, ça nous permet de nous arrêter, de réfléchir intelligemment à comment on gère tous ces déchets-là dans l'avenir, comment on peut réduire les quantités de déchets à la source, comment on peut mieux travailler à ce niveau-là. Nous, l'idée, c'est pas qu'il y aura plus de déchets du tout, puis qu'on n'est pas dans le pays des licornes, là. Ce qu'on souhaite, c'est arriver à des solutions intelligentes qui vont être solides pour plusieurs décennies à venir.
Puis, revenons à l'écologie aussi, c'est que on redécouvre l'importance écologique de ces milieux-là. Alors, c'est important là, de les préserver, les milieux humides. Là.
Oui, puis on est dans un monde qui est bien gris ces temps-ci. Il y a bien des choses qui vont pas bien. Là. Moi, je vous donne un conseil aux auditeurs. Si vous avez besoin d'un petit peu de lumière, de quelque chose de beau, là, vous parliez d'Alexandre Shields tantôt dans Le Devoir. Je pense que c'est encore facile à trouver. Il a publié des photos de la Grande Tourbière qui sont d'une beauté, mais incroyable. On a l'impression que c'est même pas réel, ce milieu-là, tellement c'est beau. Puis ça fait partie des choses qu'on doit être capable de protéger, la beauté de ce monde-là. Et l'avenir même, non seulement de l'humanité, mais de tout ce qui s'appelle vie sur Terre, dépend de qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Est-ce qu'on est capable de comprendre les richesses qu'on a entre les mains? Est-ce qu'on est capable de comprendre le rôle des différents écosystèmes? Vous parliez tantôt du fait que les forêts primaires n'en restent plus du tout. Est-ce qu'on va faire la même chose avec les milieux humides de partout dans le temps? Dans le sud du Québec, il y a quelque chose qui fonctionne pas à ce niveau-là. Il y a encore temps de bouger puis d'agir. Puis nous, on espère que le gouvernement va entendre le message qui est lancé de la part de à peu près tout le monde au Québec pour dire non, ça c'était une mauvaise idée, on vous demande de reculer, s'il vous plaît. Puis on va trouver d'autres solutions parce qu'il y a des solutions possibles.
Oui, puis c'est ça. Là, dans le temps des colons, il y avait l'excuse de l'ignorance, mais là, on le sait, là, les milieux humides, là, ce sont des milieux qui ont une grande importance écologique. En début d'émission, là, je vous lisais l'extrait de Thoreau qui parlait de Walden, mais Thoreau, qui était une espèce de sage à l'époque, déjà à son époque, là, on parle du 19e siècle, lui, il disait que l'endroit qu'ils préféraient le plus autour de Concorde, c'était le marécage, les grands marais de Walden. Puis il pouvait passer sa journée debout dans le marais. Il disait que c'est les endroits sacrés. Alors, il y avait comme une intuition déjà que ces milieux-là sont très, très riches au niveau biologique, là.
Oui, puis il y a des rapports de caractérisation de la biodiversité qui ont été faits sur la Grande Tourbière puis les terrains qui entourent ça. Puis on se rend compte qu'il y a des quantités phénoménales d'espèces installées là, dont plusieurs espèces qui sont à statut précaire. On sait que leurs habitats sont en train de disparaître et il reste quelques endroits où ils peuvent s'installer, dont cet endroit-là à Blainville, qui est parmi les derniers grands réseaux de milieux humides dans le sud du Québec.
Puis qui est une richesse pour les gens de Blainville aussi. Là. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, même la municipalité de Blainville est inquiète là, parce qu'ils perdent, dans le fond, un patrimoine, là, patrimoine biologique. Là, qui c'est pas une tourbière, même si ces tourbières-là sont importantes, perdues dans la forêt boréale. C'est un milieu qui est accessible aux gens de cette région-là. Là.
Oui, puis l'accès à la nature pour les citoyens, ça va devenir de plus en plus important. On l'a vécu à la pandémie il y a quelques années, là, où les gens ils se sont réappropriés les parcs, les forêts urbaines, les milieux humides comme ça, quand ils peuvent se promener un peu. C'est devenu essentiel pour ne serait-ce que la santé psychologique des gens qui avaient besoin de reconnecter avec quelque chose. Mais le développement immobilier ne va pas cesser dans les prochaines années, le développement industriel non plus. Il faut être capable de mieux penser la gestion du territoire puis conserver ces lieux-là qui sont de plus en plus rares puis qui vont devenir uniques.
Oui, appliquer un peu de discernement là, dans la façon qu'on développe, qu'on occupe le territoire. Là.
Exactement.
Écoutez, on prend une dernière petite pause musicale, puis au retour, bon, on va conclure... on va conclure sur notre dossier, notre sujet des tourbières de Blainville. Alors, on prend une pause musicale, puis au retour, on conclut. Belle chanson de John Lennon et Yoko Ono. On oublie souvent cette chanson-là. John Lennon, celle-là était accaparée au début, mais par après, il a dit « Ouais, mais c'est beaucoup Yoko qui était l'inspiration derrière cette belle chanson, en fin de compte, idéaliste, le classique de l'idéalisme. » Alors, Monsieur Legault, pour conclure.
Oui. Moi, en fait, j'aurais peut-être deux choses à dire à vos auditeurs. Premièrement, je recommande à tout le monde de s'informer sur des dossiers comme Stablex. Les médias se sont emparés de ce dossier-là ces derniers temps. Il y a beaucoup, beaucoup de connaissances que vous pouvez aller chercher. Il y a le Guardian, entre autres, un journal international bien connu qui a collaboré avec nous. On a eu des entrevues avec une journaliste qui a publié deux articles très importants sur l'exportation des déchets qui viennent des États-Unis. Et il y a tous les grands médias québécois qui se sont emparés de la question. Commencez par vous informer. La connaissance, c'est important. Puis la deuxième chose, c'est après, il ne faut pas rester chez soi puis angoissé en faisant « bon, il n'y a rien à faire ». Il y a plein de gens qui ont envie de faire bouger les choses. Il faut s'associer avec d'autres gens. Moi, je vous invite, entre autres, à vous abonner à l'infolette du Mort. On est facile à faire sur notre site web, ne serait-ce que pour suivre ce qu'on fait. « Ouais, mais vous êtes un peu loin de Québec. » Il y a des gens, il y a quelqu'un de Rimouski qui assiste à nos rencontres en ligne depuis des mois puis qui nous aide à monter des mémoires puis tout ça. Il y a des gens un peu partout qui nous donnent un coup de main. Je vous invite aussi à suivre les autres groupes que j'ai nommés tantôt de la coalition et à demeurer actif. Je pense, entre autres, au Jour de la Terre, où le 22 avril, si j'ai bien compris, il y a un projet de chaîne humaine pour faire le tour de l'Assemblée nationale pour dire oh, c'est important encore pour nous les questions d'environnement, puis on a de l'espoir. La fameuse chanson de Yoko Ono et John Lennon, il ne faut pas juste que ça reste un petit rêve, il faut être capable de faire bouger les choses, puis changer ce monde-là. Là. Puis on est capable de le faire si on se met ensemble.
Pour ceux qui sont intéressés à s'abonner à votre infolettre, comment on fait?
Oui, le plus facile, il y a deux façons. Soit que vous écrivez au courriel du mort, c'est mouvement.mort@commercial.gmail.com, mouvement.mort@commercial.gmail.com, ou sinon, vous allez sur le site web, vous avez juste à taper mort, comme je disais tantôt, sur un moteur de recherche, vous allez trouver ça. Et en bas de n'importe quelle page, vous allez avoir l'abonnement, l'infolettre, et c'est gratuit en plus. Là, on ne fait pas d'argent avec ça, on est un pur mouvement citoyen. C'est la mobilisation bénévole, il n'y a personne qui fait de l'argent. Pour changer le monde, qu'on travaille à ça.
En fait, c'est mouvement.mare, M-A-R-E. Hein?
Oui, mare.
Où on peut écrire dans Google directement mare, puis on va tomber sur votre site.
Vous allez me trouver très facilement. Puis comme je vous disais, moi, je vous invite aussi à aller voir les sites de Au Secours, des maires au front, de la Société pour vaincre la pollution, la coalition Alerte en Officement Rivière-du-Nord, qui ont une page Facebook, là. Vous allez être capable avec ça, de suivre tout ce qui se vit présentement autour de Stablec, puis de pouvoir aider une fois de temps en temps, même si vous êtes un peu loin là, de la ville de Blainville.
Bon, ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. C'est dommage qu'on avait de la difficulté avec la ligne, mais ça a été pas si mal, finalement. On a pu s'en sortir. Je pense que ça s'était un petit peu amélioré vers la fin.
Bon, ben c'est moi qui vous remercie. C'est un grand plaisir là, de pouvoir parler de tout ça avec vous.
Bon, et puis on va se tenir au courant, on va prendre des nouvelles, puis on va suivre ce dossier-là. Espérons qu'on puisse sauver ce beau milieu humide-là, qui sont des milieux sacrés, comme disait Taureau. Alors, merci encore, M. Legault, puis à une prochaine.
Grand plaisir.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 11 avril 2025. Le quartier Saint-Roch, souvent pointé du doigt pour son insécurité, l'itinérance ou encore les récentes fermetures de magasins, vibrait hier jeudi lors de la traditionnelle cabane à sucre de l'Engrenage Saint-Roch. Notre journaliste Alice Zanetta est allée faire un tour sur le parvis de l'église.
Tous par la main!
Ce midi, c'est la fête sur le parvis de l'église Saint-Roch. Avec différents organismes, l'Engrenage tient sa traditionnelle cabane à sucre. Au menu, musique trad, soupe au pois ou encore tir d'érable.
Retrouvez le reportage complet dans la section Actualité du CKIAFM.org. La campagne pour les prochaines élections municipales de novembre se fait déjà sentir à Québec. Le candidat à la mairie et chef de Québec d'abord, Claude Villeneuve, a répondu jeudi à l'appel de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. La veille, Geneviève Guilbeault a interpellé ceux qui s'apprêtent à briguer la mairie cet automne à se ranger derrière les projets de tramway et de troisième lien. M. Villeneuve appuie le tramway, mais pose quelques conditions sur le troisième lien.
Je m'engage, comme maire, à agir comme partenaire de la réalisation de ce projet-là s'il répond adéquatement aux besoins des citoyens.
Pour rappel, parmi les autres candidats à la mairie, le chef de Leadership Québec, Sam Ahmad, est pour le troisième lien et s'oppose.